إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc aujourd'hui on est dans le cours numéro 4 au sujet du livre الفتاوى المهمة في تفسير الأمة. Ok, c'est les fatawas des ulama au sujet de toutes les questions qui ont rapport au manhaj des khawarij et la réfutation de leurs shubuhat et de leurs égarements. Et donc, aujourd'hui, on continue la partie où le cheikh Abdelaziz Ibn Baz, il expliquait certaines choses au sujet du manhaj par rapport à les questions du... comment agir vis-à-vis des dirigeants et au sujet de la charia, etc. Et donc, on avait expliqué à la fin que l'Arabie Saoudite, c'est un des seuls pays qui réellement fait appel au tawhid et a détruit, disons, les tombes qui sont adorées par les hommes, par certains qui ont, disons, dévié dans la question du tawhid et qui prennent des tombes comme objet d'adoration et qui adore les saints et les morts. Et donc, Cheikh, il expliquait que l'Arabie Saoudite, c'est un des seuls pays qui appelle à ça et qui établit réellement cette da'wa qui est le da'wa de tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on regarde par rapport aux autres pays avoisinants, puis aux autres pays musulmans dans le monde, et on trouve que cette da'wa-là, elle n'existe pas, ou bien elle n'existe presque pas. À part certains des du'ats qui ont été formés, qui ont étudié comme il faut le manhaj et la da'wa salafiyya et qui sont retournés dans leur pays pour l'enseigner et pour la répandre. Donc on continue à partir de ce point, le Cheikh dit nas'alullah lana wa lahum al-hidayah wa at-tawfiq wa as-salah wa nas'alullah an yu'inaha 'ala al-khayr wa nas'alullah an yuwaffiqaha li izalati kulli sharrin wa kulli naqsin wa narju lahum الإعانة والتوفيق والتسديد وأن يصلح لها كل حال في كل حال والواجب على كل مسلم في سائر الدنيا أن يدعو لإخوانه المسلمين بالتوفيق والهداية والصلاح ومن ذا الذي يسلم من ذا الذي يسلم pardon. Donc le Cheikh dit que on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de donner à l'Arabie Saoudite et à ses ulama et à ceux là-bas qui enseignent et qui propagent la da'wa, de leur donner le succès et la guidance et de leur donner le bien. Et on demande à Allah de les aider pour tout ce qui est bon et d'enlever tout ce qui est mal et tout ce qui est imperfection ou disons négligence ou faiblesse. Et on espère pour eux que Allah les supporte et leur donne le succès et les renforce. Et qu'il leur corrige toutes les fautes et les erreurs qu'ils ont. Et l'obligation pour tous les musulmans à travers le monde, c'est de faire des du'as pour leurs frères, pour les autres musulmans, pour leur demander le succès et la guidance et le bien. Et qui est exempt, hein, qui n'a pas de faute hein, parmi les hommes. Et allez, donc le cheikh il dit ensuite, قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. Ceux qui aiment que al-fahisha, c'est-à-dire le péché, la turpitude, soit répandu parmi les croyants, ils auront un dur châtiment dans cette dunya et dans l'autre vie. D'accord? Donc, yani, c'est qui aime faire la propagation puis la diffusion des péchés qui se produisent chez les musulmans et des fautes qui se produisent chez les musulmans? Ceux qui aiment faire ça, yani, Allah les a menacés dans ce verset-là, c'est le verset 19 dans Sourate An-Nur. Allah les a menacés de l'enfer et d'un châtiment douloureux dans cette vie et dans l'au-delà. Cheikh Diman Asha'a, حصل كذا وكذا وزاد على الواقع وادعى ما لم يقع فهذا أشد خطرا وأعظم كم لشيخ الجزاه سليكي نعم وزاد على الواقع وادعى ما لم يقع وعليكم السلام الله فهذا أشد وأخطر وأعظم لما ولما كذبوا على عثمان وكذبوا على علي رضي الله عنه وكذبت الخوارج وكذب دعاة الفتنة والملحدون حصل شر عظيم وفتنة عظيمة في عهد عثمان في القرن الأول أفضل القرون بسبب الجهل والملحدين فتنة قام بها الملحدون من والجهل فاغتر بها بعض الناس حتى صار بها شر عظيم ولو عولجت بالحكمة والنصيحة والتوجيه إلى الخير لكان هذا فعل طيب وطريق الهدى ولكنهم عالجوا بالإنكار فأفضى إلى قتل عثمان رضي الله عنه بغير حق وإلى قتل علي بغير حق وإلى قتل جمع من الصحابة في موقعة الجمل والصفين وكل ذلك بأسباب الفتنة التي قام بها الجهال والملحدين. Donc, le cheikh il explique que ceux qui font diffuser et qui propagent toutes sortes d'informations mensongères et des péchés ou des choses qui sont fausses parfois, des choses qui sont vraies, hein, et des fois ils rajoutent des choses à la réalité, hein, et ils prétendent ce qui n'est pas arrivé, hein, ils rajoutent des choses à la réalité et il invente des choses, il rajoute à des informations des choses qui ne sont pas arrivées, hein, c'est ce qu'ils font en réalité, c'est de la désinformation, hein, ils remplissent la société de toutes sortes de fausses informations et de mensonges et ils répandent de la turpitude parmi les musulmans. Et ça fait aussi penser à qu'est-ce que les médias parfois font dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans, de faire la propagation des mensonges et des péchés qui se passent chez les musulmans, que ce soit chez les dirigeants, que ce soit chez les responsables ou que ce soit chez la population en général, eh ben c'est ça, le fait de propager, de faire la diffusion des péchés, des choses qui se produisent dans la société de cette façon, eh ben ça fait en sorte que, comme le cheikh va expliquer plus tard, ça fait en sorte que les gens n'ont plus confiance en ceux qui les dirigent. Et ils n'ont plus confiance par la suite en personne dans la société et en l'institution en entier. Et ils remplissent, c'est leur cœur qui remplit par la suite de doute et de haine envers ceux qui les dirigent. D'accord? Et le chef, il dit que, donc, si les gens qui diffusent des informations rajoutent toutes sortes de choses qui ne sont pas arrivées vraiment, mais ça c'est encore plus grave et c'est encore plus grand et c'est encore plus dangereux. Et lorsque les gens ont menti à propos de Othman ibn Affan et à propos de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, et que les Khawarij ont menti, et que les gens qui appellent à la fitna et les gens qui ont dévié, hein, comme par exemple à l'époque c'était Abdullah ibn Saba, le juif converti, il s'était fait passer pour un converti, hein, et il venait du Yémen, et il est rentré parmi les musulmans, puis il commençait à répandre toutes sortes de faussetés à propos de Ali, à propos des Sahaba, hein, commençaient à répandre des fitnas comme ça entre les gens pour diviser les musulmans. Et il y a des ignorants qui l'ont suivi et qui ont continué à faire ça. Et donc jusqu'à ce que les gens commencent à mentir, comme le chef dit, à propos de Othman, à propos de Ali, et les Khawarij ont pris ça par la suite, et c'est arrivé par la suite une grande fitna et des grands problèmes et des grands mâles, hein, des grands maux qui sont diffusés par la suite, et une grande fitna à l'époque de Othman. Et ça c'est le premier siècle, qui est le meilleur siècle, comme le prophète l'a dit dans un hadith. Et tout ça à cause des ignorants et des gens qui ont dévié. Hein, ils ont fait une fitna. Les gens déviés et les ignorants, ils ont fait une fitna et ils ont été trompés. Beaucoup de gens ont été trompés à cause de ça. Et ça a eu comme conséquence des choses très mauvaises parmi les musulmans. Et si on avait essayé de résoudre les problèmes avec sagesse et avec le bon conseil et avec l'orientation vers le bien, eh ben on aurait vu que ça aurait pu amener du bien et qu'on aurait pu trouver le chemin vers la guidance dans tous ces problèmes-là. Toutefois, ils ont plutôt de faire ça, ces ignorants-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de dénoncer et de s'opposer d'une façon incorrecte, comme ils l'ont fait, et ça a amené au meurtre de Othman, et ça a amené également au meurtre de Ali, et à la mort de beaucoup parmi les Sahaba dans la bataille de Al-Jamal et la bataille de Safin. Et tout ça s'est produit à cause de la fitna que les ignorants et les gens qui ont dévié ont produit, ils ont mis l'huile sur le feu, puis ça a dégénéré, puis ça a créé toutes ces circonstances-là et ces conséquences-là. À cause de l'ignorance, comme on a dit, et à cause des gens qui ont des mauvaises intentions et qui travaillent pour semer les problèmes dans la nation parmi les musulmans. Cheikh dit ensuite, وهكذا اليوم دعاة الإلحاد ودعاة الجهل ودعاة الشر كل هذا يسبب شر شر يسبب شر عظيم نعم فيجب الحذر منهم ويجب عدم تلقي شيء من أخلاقهم أو أوراقهم فيجب إتلافها والدعاء لهم بالهداية. Donc le cheikh dit aujourd'hui également les gens qui appellent à l'égard, à la déviation et les gens qui appellent à l'ignorance et qui appellent au mal, tout ça, ça amène un grand mal. Et c'est obligatoire de prendre des précautions et de faire attention à ces gens-là. Et c'est obligatoire également de ne pas prendre rien de leur comportement et de leur attitude. Et de ne pas prendre également les feuilles qu'ils distribuent et de les détruire et de faire des doigts pour eux, pour que Allah les guide. Et là, bien entendu, il parle de Al-Mas'ari, comme on avait dit la dernière fois, et ceux qui avaient suivi sa méthode. Et également, non seulement ceux-là, mais également tous ceux qui appellent à l'égarement et à la déviation et qui sèment la fitna. Donc, le Cheikh il dit, وَنَسْأَلُ اللَّهِ أَنْ يَكْفِينَا شَرَّهُمْ وَأَنْ يُعِيذَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ شَرِّهِمْ وَشَرِّ أَمْثَالِهِمْ وَأَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلْحَقِّ وَيَرُدَّهُمْ للصواب فإنهم قد غرهم الغرور وغرهم الشيطان وغرهم دعاة الإلحاد حتى سبوا دعاة الحق وسبوا دعاة التوحيد وسبوا دعاة التوحيد من آل سعود وغيرهم كل هذا غلط وجهل وضلال ويجب على المسلمين أن يحذروا من شر هؤلاء وأن يبتعدوا عن أوراقهم وكتاباتهم التي يكذبون فيها ويجب إتلافها والقضاء عليها ويجب الدعاء لهم بالهداية وأن يكفينا الله شرهم وأن يعيذنا من شرهم ويردهم إلى الحق والصواب. Le Cheikh dit, on demande à Allah de nous protéger de leur mal et qu'il protège les musulmans également du mal qu'ils propagent, eux et leurs semblables. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les guide à la vérité et qu'il les ramène au droit et à qu'est-ce qui est correct. Et parce qu'ils ont été trompés et le shaitan les a trompés et les gens qui appellent à l'égarement, ils les ont trompés, à aller jusqu'à commencer à insulter les gens qui appellent à la vérité et à insulter les gens qui appellent au tawhid et à insulter les descendants de la famille de Mohammed ibn Saoud, et donc parmi eux. Et tout ça, il dit, le chef, il dit que ça c'est une erreur, et c'est une ignorance et un égarement. Il dit que donc c'est obligatoire aux musulmans de faire attention et de prendre des précautions vis-à-vis de ceux-là, et de s'en éloigner, et de ce qu'ils écrivent, de s'éloigner d'eux, et de ce qu'ils écrivent, et de leurs livres, dans lesquels ils mentent et ils propagent toutes sortes de faussetés, yani, et de demander à Allah de les guider et de nous protéger contre le mal qu'ils propagent, etc. Donc ça c'est la fin de ce passage dans lequel le Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, il voulait nous avertir à ce sujet-là, de ces gens-là. Et il y a un bon livre à ce sujet-là, pas nécessairement à ce sujet-là en particulier, mais dans le livre il y a une partie qui touche de ce sujet-là, c'est le livre d'Abdul Malik Ramadani qui s'appelle « Madarik al-Nazar fi al-Siyasa ». Inch'Allah, c'est vraiment un des meilleurs livres qui explique toutes ces questions, et il y a une partie qui parle de Al-Mas'ari, puis qui montre même il y a même une photocopie d'une des pages qu'il diffusait, ok, dans lesquelles il y a des paroles contre le Cheikh Ibn Baz, des paroles contre Mohammed Abdul Wahhab, etc. Donc, on voit que leur position, yani, c'est une position d'égarement. Vous pouvez retourner à ce livre-là pour avoir plus de détails. Ensuite, il y a une autre question qui est posée au chef. On lui demande, il dit, « Ma huwa wajibu ahli sunnati wal jama'a tijaha wulati l'umour arju tafsir ?» Ici, c'est une question dans laquelle on pose au chef, c'est quoi l'obligation de ahli sunna wal jama'a vis-à-vis de leurs dirigeants et ceux qui sont responsables des musulmans. Et il demande plus de détails. Et on a déjà traduit une fatwa dans ce sens-là. Et le chef, il fait juste répéter encore les mêmes principes qui sont les fondements parmi les fondements de Ahlus Sunnah wal Jama'a. C'est-à-dire, le chef dit « Wa Ahlus Sunnah wal Jama'a yarawna sam' wa ta'a li wulati l'umour » كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره في المنشط والمكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في المعروف تجب الطاعة لأن بهذا تنظيم الأمور ويحصل الأمن وتستقر الأمور أما مع المخالفات تقع الفتن فالواجب على الرعية السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي ويدعو لهم بالتوفيق والهداية وصلاح النية وصلاح العمل ويتعاملوا معهم فيما أباح الله وفيما يرضي الله لا في المعاصي. Donc le cheikh explique, il dit que Ahlus Sunnah wal Jama'a, il voit que c'est obligatoire d'écouter et d'obéir les dirigeants. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 59 dans Sourate An-Nisa, ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et il mentionne un autre verset qui est le verset 16 dans Sourate At-Tahabun qui dit « Et craignez Allah le plus que vous pouvez. »« فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ » وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا » C'est-à-dire « Écoutez et obéissez. » Ensuite, le Cheikh il mentionne un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le musulman il doit écouter et obéir dans ce qu'il aime et dans ce qu'il n'aime pas. Lorsqu'il est en forme et dans qu'est-ce qu'il aime et dans ce qu'il n'aime pas, dans la difficulté comme dans la facilité. Et après il dit, excepté si on lui ordonne de faire un péché, alors là il ne doit ni écouter ni obéir. Dans le péché on n'a pas le droit d'écouter, il n'y en a pas le droit d'obéir. C'est seulement dans le bien. Le cheikh il dit, dans le bien c'est obligatoire d'obéir. Mais pourquoi ? Mais dans le bien c'est obligatoire d'obéir parce que c'est ça qui amène l'organisation et qui fait en sorte que toute chose dans la société va être en ordre et bien organisée, d'accord. Et ça c'est dans le bien, non pas dans le péché. Et ça fait en sorte que il y a une paix et une sécurité dans la société. Et c'est comme ça que les choses deviennent stables et ordonnées. En ce qui concerne les contradictions, des fois quand il y a par contre des oppositions, C'est là qu'il y a des désordres, du désordre et des problèmes dans la société. Et ça, ça nous montre qu'en fait, l'islam, il est basé sur le respect de l'autorité et non pas l'opposition à l'autorité. Hein, le système des kuffar, il est basé sur l'opposition à l'autorité. Tandis que dans l'islam, c'est basé sur le respect de l'autorité. Donc, la première chose qu'ils ont dénoncée ou qu'ils ont rejetée, les kuffar, c'est quoi? L'autorité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont rejeté ça. Ils ont refusé que ce soit Allah qui doit être le premier, le plus grand, celui qui doit être obéi par-dessus tout. Ça, ils l'ont rejeté. Ensuite, ils ont rejeté le reste, l'autorité de ceux qui dirigent. Hein, et jusqu'à ce qu'ils disent que c'est nous, le peuple, qui sommes les dirigeants. À la suite, il y a eu plein de discordes et de problèmes. C'est ça ce qui arrive actuellement. D'accord? Donc, la société est dans le désordre. Et il y a des groupes musulmans qui appellent à ces systèmes-là qui sont inventés par les koufars. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font leur propre groupe. Et ils ont leur propre chef. Et ils donnent à ce chef-là, une autorité. Qu'il n'a même pas réellement. Mais ils lui donnent une allégeance. En ce qui concerne, par contre, si tu compares avec la da'wa qu'on suit, la da'wa des salafs, il n'y a pas de bay'a à personne, excepté aux dirigeants des musulmans. Il n'y a pas de chef on ne forme pas un groupe avec un chef, on n'est pas une jama'a qui suit un leader ou quelqu'un en dehors. Non, la bay'a c'est uniquement pour celui qui dirige les musulmans. Que ce soit dans un pays, bien entendu, c'est dans un pays musulman. Le dirigeant du pays musulman, celui qui est réellement au pouvoir dans ce pays-là, c'est lui le dirigeant. Et c'est à lui qu'on doit obéissance dans le bien. Mais pas à un chef qu'on s'est donné nous-mêmes puis qu'on obéit. Donc là, ces groupes-là, ils voient parfois les salafis. Ils voient les salafis et eux, ils s'organisent entre eux, ils font leur groupe avec leur chef, comme j'ai dit. Et ils nous regardent et nous disent « Ah, mais vous êtes contre l'organisation. » Je me souviens parfois, c'est arrivé que j'étais allé dans des conférences, puis ils s'organisaient et disent « Ah, vous les salafis, vous êtes contre l'organisation. L'islam, c'est l'organisation. » Moi, je leur ai dit « Subhanallah, vous faites des organisations contraires à l'islam. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Vous faites des organisations qui sont à la base contraires à l'islam. Vous réunissez, vous choisissez un chef et vous l'obéissez comme s'il était le dirigeant des musulmans. » Alors qu'il n'a même pas d'autorité, et vous lui donnez une bay'a, et vous divisez en groupe comme ça. Ça c'est pas l'organisation, ça. Ça c'est le chaos, ça c'est le désordre. Hein, c'est la division, ça, que vous amenez. Donc nous, au contraire, on est pour l'organisation. Et on est pour le bien et le respect de l'autorité, mais pas à la façon des hizbiyin. Ensuite, le cheikh, il dit que l'obligation pour la population, ceux qui forment le peuple, c'est d'écouter et d'obéir aux dirigeants, dans le bien, non dans le péché, et de faire des doigts pour eux, pour qu'Allah leur donne le succès et la guidance, et qu'il purifie leurs intentions, et corrige leurs intentions et leurs actions, et d'interagir avec eux dans ce qui est bien, et dans ce qu'Allah a permis, et dans ce qui amène l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non dans le péché. Ensuite, il y a une fatwa qui est mentionnée, et c'est la fatwa d'un des ulama de l'islam, c'est-à-dire le cheikh Mohammed Nasiruddin al-Albani. Donc là, on a lu les fatwas de cheikh Ibn Baz qui parlait de ce sujet-là. Là, il mentionne une fatwa du cheikh al-Albani à ce sujet. Cheikh dit fatwa al-allama al-muhaddith, cheikh Mohammed Nasiruddin al-Albani. Il dit qala rahimahullah bi-ikhtisar. لقد سمعت كلام إخواننا محمد شقرة وعلي الحلبي حول مسألة الخروج على الحكام وتكفيرهم، ثم قال هذه الجماعات التي تعلن كتابة ومحاضرة الخروج على الحكام، هؤلاء في تقديري أنا أولا جهل بحكم الشرع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تواترت عنه الأحاديث في طاعة الحكام إما في معصية الله تجب طاعتهم ولو ظلموك ولو ضربوا ظهرك ما لم تروا كفرا موصدا. نعم. إن الخروج على الحكام فتنة، فإذا أراد هؤلاء الخارجون أن يخرجوا على بعض الحكام المسلمين فليخرجوا على الكفار المشركين، ولكنهم يريدون أن يبثوا الفتن بين المسلمين. ولذلك أنا في الحقيقة في شك كبير من أمرين اثنين. الشيخ في إلتي en parlant, il dit, Cheikh Mohamed Asruddin al-Aban, il dit, j'ai entendu les paroles de Mohamed Chakra et Ali al-Halabi au sujet de la question de sortir et de se rebeller contre les dirigeants et de les déclarer kuffar. Et en passant, Mohamed Chakra, après la mort du Cheikh al-Aban, il a changé. Il a pris une position la même que les positions des Hizbiyin, et il a commencé à accuser Cheikh Al-Albani d'être un murji. Hein. Je pense que Cheikh Ali Hassan, il a réfuté même Mohamed Ibrahim Chakra dans un livre. Donc ça c'est juste pour mentionner en passant là, que le gars il a dévié, je pense. Après il dit, le Cheikh Al-Albani dit, ces groupes qui annoncent ou qui font savoir ou, par écrit ou par des par la parole ou par l'écrit qu'ils sortent contre le gouvernement et qu'ils se rebellent contre les dirigeants, ceux-là, selon moi, premièrement, ils sont des ignorants. C'est-à-dire ils connaissent pas le jugement et le verdict de la charia à ce sujet-là. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a été rapporté à son sujet dans un grand nombre de hadiths qu'il est obligatoire d'obéir aux dirigeants, excepté dans le péché, et que c'est obligé de les obéir, même s'ils te font de l'injustice, et même s'ils te frappent le dos, hein, tant que tu n'as pas vu un kufr clair, comme c'est mentionné dans le hadith. Après, le cheikh il dit, le fait de sortir contre les dirigeants et de se rebeller contre les dirigeants musulmans, c'est une fitna. Et si ceux qui sortent contre certains d'entre eux qui veulent prendre ou se rebeller ou sortir contre les dirigeants et prendre les armes contre les dirigeants, s'ils veulent faire ça contre certains des musulmans qui dirigent les musulmans, alors pourquoi ils ne le font pas contre les koufars et les mouchriquins, hein, c'est-à-dire s'ils veulent sortir absolument, pourquoi ils ne le font pas contre ceux qui sont réellement des koufars et des mouchriquins, hein, pourquoi ils le font absolument contre des musulmans, contre les dirigeants et des gouvernements qui sont musulmans? Parce que ils veulent, le cheikh dit, mais ils veulent absolument répandre le désordre et la fitna entre les musulmans seulement. Hein? Et ça c'est des caractéristiques des khawarij. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, يَتْرُكُونَ أَهْلُ الْأَوْثَانِ وَيَقْتُلُونَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ. C'est-à-dire ils combattent les musulmans et ils laissent en paix les gens qui adorent les idoles. Après le cheikh il dit, فَلِذَلِكَ أَنَا فِي الْحَقِقَ فِي شَكٍ كَبِيرٍ مِنْ أَمْرَيْنِ اثْنَيْنِ مِنْ إِسْلَام هَؤُلَاء حَقِيقَةً أي أخشى أن يكونوا من أعداء الإسلام فلبسوا بثياب المسلمين، وإن كانت الأخرى وهي أنهم مسلمون فعلا ولكنهم جهلة في منتهى الجهالة. Donc le cheikh il dit, et en réalité j'ai un grand doute, ou bien dit j'ai deux grands doutes au sujet de la réalité de ces gens-là. Le premier, c'est que j'ai un doute au sujet de l'islam de ces gens-là en réalité. C'est-à-dire, je crains que ce ne soient pas des vrais musulmans. Je crains que ce soient des ennemis de l'islam qui se soient fait passer ou qui se font passer pour des musulmans. Ok? C'est des ennemis de l'islam qui se font passer pour des musulmans pour salir la face de l'islam et pour diviser les musulmans. Et ça, c'est une réalité, Annie, qu'on peut tous observer. Parce qu'en réalité, si on observe comme il faut la situation, et qu'est-ce qui se passe actuellement, que ce soit le terrorisme ou toutes ces choses-là qui se passent dans les pays musulmans, on voit que ça donne plus d'avantages et que ça profite beaucoup plus aux kuffars qu'aux musulmans. Au contraire, même, je peux dire que ça nuit uniquement aux musulmans et non aux kuffars. Chaque fois qu'il y a un attentat, chaque fois qu'il y a une attaque qui est faite au nom de l'islam chez les kuffars, c'est utilisé par les non-musulmans comme un prétexte et un argument pour faire de l'injustice et pour attaquer l'islam et le musulman. Donc, ceux qui font ces actes terroristes, ils sont en train de rendre un service aux non-musulmans, aux ennemis de l'islam, parce que c'est comme s'ils leur donnent une lumière rouge, une lumière verte, ils leur disent « ça y est, on vous ouvre la porte, maintenant vous pouvez faire tout ce que vous voulez contre les musulmans et contre l'islam, grâce à nous, on vous a ouvert la porte ». Donc ces gens-là qui font des actes de terrorisme et qui prétendent vouloir faire des bonnes choses pour l'islam, et qui prétendent être en train de faire le djihad dans la cause d'Allah, ils sont en réalité en train d'aider les ennemis de l'islam. Ils sont en train de leur dire, regardez, vous avez raison sur nous, on est des terroristes. On vous fait des attentats, maintenant pour que vous puissiez par la suite nous attaquer, et nous écraser, et nous détruire. Hein? Donc, ils servent la cause des ennemis de l'islam. Et comme le cheikh il dit, il a un doute que ces gens-là soient des ennemis de l'islam. Et effectivement, il y a beaucoup de koufars qui sont infiltrés, ou qui ont infiltré des agents parmi les groupes, parmi ces groupes soi-disant islamistes, pour inciter ces groupes-là à faire des actes de terrorisme, pour faire passer ça par la suite sur le dos de l'islam, sur le dos des musulmans. Et la plupart du temps, c'est ça qui est arrivé. Regardez par exemple juste à Toronto, les 17 là qui se sont fait arrêter, le gars qui les a incités c'était un imam, il a été payé par les services de renseignement ou bien par la GRC pour s'infiltrer parmi eux et pour les inciter à le faire et pour leur donner les moyens pour le faire. Une fois qu'ils ont pris vraiment l'initiative de le faire, là ils les ont arrêtés, ils ont dit « ah ça y est, vous êtes des terroristes », ou bien « vous aviez planifié de faire un acte terroriste ». Hein? Et ils lui ont donné, le gars il a prétendu, le gars qui l'a fait, c'était un imam, je crois que c'était un égyptien, je suis pas sûr, il a prétendu qu'on lui a donné 4 milliards de dollars, 4 milliards de dollars pour faire cette affaire-là. Hein? Donc c'est pour dire que il y a des musulmans, déjà qui se prétendent musulmans, qui se font payer, hein? C'est-à-dire c'est des gens, c'est des vendus, des gens qui n'ont pas d'honneur ni de dignité, qui font des affaires de ce genre, puis après ça retombe contre les musulmans. Hein? Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire cette attention. Il y a des groupes, comme vous voyez, des groupes, des islamistes, des groupes qui font des actes de terrorisme et des choses comme ça, sachez qu'il y a toujours des koufars derrière ces groupes-là. Même s'ils prétendent être courageux, être forts, en train de crier Allahu Akbar, puis essayer de montrer qu'ils sont en train d'avoir de l'honneur et de la jalousie pour défendre l'islam, derrière ça, il y a peut-être une anguille. Et la preuve que vous pouvez savoir de ces gens-là, que c'est ça ce qu'ils font réellement, que c'est le désordre qu'ils veulent, c'est que vous les voyez toujours en train de décourager les gens d'étudier l'islam. Ils sont toujours en train de dire, étudiez pas l'islam, c'est pas ça, c'est pas important, hein. Assoyez-vous pas dans les tours, écoutez pas les ulama, c'est des hypocrites. Hein, ils travaillent pour les gouvernements, c'est des agents, c'est des ci, c'est des ça. Ils essaient d'éloigner les jeunes de l'islam, éloigner les jeunes de la connaissance, éloigner les jeunes des ulama et les pousser vers les actes de motivation soi-disant émotive, hein, de se pousser vers les émotions, les discours émotifs. Les films, les images où on montre des gens qui sont en train de faire des actes ou soi-disant de faire des faux combats, comme ils montrent qu'ils sont en train de faire le djihad quelque part dans la forêt, hein, puis ils font distribuer ces vidéos-là un peu partout. Ça, c'est un signe. Hein. Donc, ces gens-là, comme je dis, il faut se méfier d'eux. Et on ne sait pas si qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils sont sincères ou non. Ensuite, le cheikh il dit, ou bien il y a une autre possibilité, s'ils ne sont pas des ennemis de l'islam qui se font passer pour des musulmans, c'est bien possible également que ce soit des musulmans, toutefois ce sont des musulmans à l'extrême de l'ignorance, alaykoum salam, des musulmans qui sont dans une ignorance tellement extrême, yani ils ne connaissent même pas les règles et les questions yani à ce sujet-là, par exemple qu'on n'a pas le droit de prendre les armes contre les dirigeants. Et ça, bien entendu, tous les hadiths que les ulama ont mentionnés au sujet de l'obéissance aux dirigeants, toutes ces choses-là, ils les ont cachés, ces groupes-là, ils les cachent. Ils cachent ces hadiths. Ou bien, soit ils les cachent, ou bien soit qu'ils essaient de les interpréter en disant « ça ne s'applique pas aux dirigeants d'aujourd'hui ». Ils disent « ça s'appliquait juste à l'époque ». Ce qu'ils disent, c'est ces dirigeants-là avant, ils appliquaient la charia, mais aujourd'hui ils n'appliquent plus la charia, donc ça ne s'applique plus à eux. Donc eux, ils s'imaginent que les dirigeants d'avant, ils étaient tous parfaits, 100%, ils appliquaient la charia tous à 100%, sans faute et sans erreur. Et que la charia continuait d'être appliquée jusqu'à Kemal Atatürk en 1924 en Turquie. Ah, ça c'est faux ça. Il y a toujours eu des erreurs, des fautes, des péchés qui se faisaient à travers l'histoire de l'islam, à travers les différentes époques. Il y avait des dirigeants qui jugeaient parfois par autre que la charia d'Allah, qui suivaient leur passion et leur désir, et qui faisaient des péchés ouvertement, et qui appelaient des fois à des bid'a et à des choses qui sont contraires à la sunna. Malgré tout, les ulama ont toujours dit qu'il faut obéir et suivre la vérité, et obéir aux dirigeants et les écouter, excepté dans le péché. Ils ordonnaient toujours d'obéir et de suivre, excepté dans le péché, comme je disais, et il expliquait aux gens, ils enseignaient aux gens la religion d'Allah. Donc, ces groupes actuellement qui sont apparus, soit les Ikhwan Muslimin, les Hizb al-Tahrir ou les autres groupes, c'est des groupes qui sont inspirés et influencés des mouvements socialistes ou anarchistes en Europe et en Occident, des mouvements laïcs ou démocrates et communistes en Europe, et qui ont essayé de traduire ça en langage islamique, en utilisant des versets du Coran, en utilisant des hadiths, en essayant d'utiliser des principes de la religion musulmane pour essayer de supporter puis de défendre ces idées-là, au nom de la justice, au nom de toutes sortes d'autres idéologies. Faire passer ça comme étant des idées islamistes, alors que ça n'a rien à voir avec l'islam. D'accord? Donc, les frères de Salafi Publications, ils ont mis, je pense, 6 fichiers dans leur site à ce sujet-là. Ils parlent du mouvement Salafi en Angleterre et comment des Ikhwan Muslimin ont essayé, disons, de s'infiltrer parmi les Salafis pour, en Arabie Saoudite, pour essayer de, salir l'image et de changer la réalité de cette da'wah. Comme on a parlé la dernière fois des surur et puis des qutbi et de ces gens-là. Donc c'est ça exactement qu'ils ont essayé de faire. Mais alhamdoulilah, les ulama à chaque fois, Cheikh Ibn Baz, Al-Albani, Ibn Uthaymeen, ils ont réfuté un par un ces tentatives-là, et ils sont restés fermes sur la sunna, et ils ont clarifié aux salafis la réalité de cette da'wah, et c'est pour ça que aujourd'hui ils détestent, tous ces groupes-là, ils détestent les salafis et ceux qui restent avec les ulama. D'accord? Cheikh il dit donc, إذن الخروج لا يجوز إطلاقا لذلك نحن نرى هؤلاء الخارجين أو الداعين للخروج هم إما أنهم مدسوسون على الإسلام أو أنهم مسلمون ولكن في منتهى الجهل بالإسلام الذي أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit que le khuruj, de se rebeller et de sortir contre les dirigeants, que ce soit par la parole ou par les armes ou par les manifestations ou d'autres, ce n'est pas permis du tout. Et il dit, c'est pour ça qu'on voit que notre position vis-à-vis des gens qui font ces choses-là ou qui appellent à ça, qui appellent à la rébellion et à se rebeller et à sortir contre les dirigeants, notre position par rapport à eux, c'est que soit qu'ils ce sont des gens qui se font passer pour des musulmans, alors qu'ils n'ont rien à voir avec l'islam, comme on a dit, ou bien que ce sont des musulmans, mais qui sont des gens qui sont totalement dans l'ignorance de l'islam. Quand on dit ignorance de l'islam, c'est-à-dire qu'ils sont ignorants de l'islam qu'Allah a fait descendre sur le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et donc c'est pour ça qu'en réalité, comme je disais tout à l'heure, que ces gens-là, il y en a qui, parmi eux qui se font passer pour des musulmans et qui sont des ennemis de l'islam. Ok. Et puis, ça c'est un point. Mais également, les kuffars, ça nous montre en même temps que leur plus grande crainte et leur plus grande peur, c'est-à-dire les kuffars, qu'est-ce qu'ils craignent le plus? C'est pas les terroristes. C'est pas vraiment les terroristes, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, les terroristes sont en train de rendre un grand service aux kuffars dans leur guerre contre l'islam. Hein? Ils les aident plus qu'ils leur nuisent. Parce qu'ils justifient leur injustice envers les musulmans. Et ils leur ouvrent la porte pour attaquer l'islam et les musulmans. Mais ceux qu'ils craignent le plus, et qu'ils détestent le plus, c'est les musulmans qui enseignent le tawhid, et qui expliquent aux gens la réalité de la sunna, et qui les ramènent à la bonne compréhension de leur aqidah, et qui les ramènent aux bases de cette religion, et qui leur expliquent les règles de la sharia, et les règles de leur religion, avec l'enseignement et l'étude. Hein. Ça leur fait beaucoup plus peur que n'importe quelle personne qui se prétend musulman puis qui va appeler à soi-disant du terrorisme. Hein? Et donc c'est pour ça qu'il faut savoir que le vrai ennemi de ces gens-là, c'est ceux qui appellent au tawhid, c'est ceux qui appellent à la bonne compréhension de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est-à-dire leur vrai ennemi c'est cette da'wa, la da'wa salafia, que des gens soient, c'est-à-dire on doit rester conscient de ça. Rester conscient de ça. Parce que même ces groupes-là, soi-disant, là, qui se disent islamistes, hein, eh ben, quand ils ont atteint leur but, et quand ils ont reçu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire quand ils sont rentrés dans le Parlement, quand ils sont rentrés dans les positions importantes qu'ils recherchent, eh ben, ils s'allient avec eux. Ils deviennent des collaborateurs avec les kuffars. Hein. Ils font des pactes avec eux, ils s'entraident ensemble contre les salafis. Donc ça veut dire qu'en réalité, c'est leur ennemi, c'est la da'wa salafie. Donc, yani, c'est quelque chose qu'on doit garder en tête. Et c'est ça que le Cheikh Al-Albani, il essaie de clarifier dans ce passage. Après le Cheikh il dit, « وَيَبْقَى كَلِمَةُ التَّكْفِيرِ لا يجوز تكفير الحكام إطلاقا ما دام أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولذلك نحن نؤيد كل من يدعو إلى الرد على هؤلاء الخارجين على الحكام وعلى الذين يحثون المسلمين على الخروج على الحكام الشيخ الزي il reste à parler de la parole de takfir ou au sujet du takfir. Le cheikh dit qu'il n'est pas du tout permis de déclarer les dirigeants kuffars. Tant qu'ils disent la ilaha illallah et qu'ils disent Muhammad Rasulullah, et nous on supporte tous ceux qui appellent à réfuter ces gens qui se révoltent contre les dirigeants et qui incitent les musulmans à se révolter contre les dirigeants. Donc on supporte ceux qui les réfutent et qui sont contre les gens de Khawarij qui appellent à se rebeller contre les dirigeants. Donc ça c'est la position de tous les ulama salafiyyins. Et ça c'est les plus grands, ça c'est les paroles des plus grands ulama de la da'wa salafiyya qu'on mentionne et qu'on est en train d'expliquer maintenant. Donc, on voit qu'ils sont tous d'accord sur les principes de base de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ensuite, maintenant, on va lire les paroles du Cheikh Mohammed ibn Uthaymeen. Hein, Muhammad ibn Husaymin rahimahullah, il y a un bon nombre de fatwas à ce sujet-là de la part de ce cheikh, et ensuite il y a les paroles du cheikh Salih al-Fawzan qui sont vraiment très intéressantes également à ce sujet-là. Je pense pas qu'on va terminer, qu'on va toutes les lire aujourd'hui. Mais on va peut-être, disons, en lire la moitié si c'est possible. Au moins terminer les paroles du Cheikh Ibn Uthaymeen, puis on fera la semaine prochaine, Inch'Allah, celle du Cheikh Fawzan. Ensuite, le sujet qui vient après, c'est les attaques ou les insultes contre les ulama. Ça va être, Inch'Allah, la semaine prochaine, bismillah. Donc, pour en revenir aux paroles du Cheikh Ibn Uthaymeen, le Cheikh il a dit dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle « Hukuk al-Ra'i wal-Ra'iyya » et il dit « Amma al-Nasihatu li'a'immati al-Muslimina fahuwa sidqu al-Wala lahum wa irshaduhum lima fihi khayr al-Umma fi diniha wa dunyaha wa musa'adatuhum fi iqamati thalik wa sam'u wa ta'a li'awamirihim » وما لهم لأوامرهم ما لم يأمروا بمعصية الله واعتقاد أنهم أئمة متبعون pardon لما أمروا به أو لما أمروا به لأن ضد ذلك هو الغش والعناد لأوامرهم والتفرق والفوضى التي لا نهاية لها لأنه لو جاز لكل واحد أن يركب رأسه أو أن يركب رأسه وأن يعتز برأيه ويعتقد أنه هو المسدد الصواب وهو الذي لا يدانيه أحد لزم من ذلك الفوضى والتفرق والتشتت ولذلك جاءت النصوص القرآنية والسنة النبوية بالأمر بطاعة ولاة الأمر لأن ذلك من النصيحة لهم التي بها تمام الدين. Donc, là c'est un petit passage des paroles du Cheikh Ibn Uthaymeen. Il y a beaucoup de sagesse et de bons points dans ces paroles-là. Mais avant de mentionner ça, il me revient à l'esprit une parole. Dernièrement, j'ai vu un reportage qui a passé à la télé. Puis il y avait une femme qui, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait exactement, si une Française, elle vit ici au Canada, elle parlait de soi-disant des terroristes et tout ça, puis ceux qui vivent musulmans puis qui font du terrorisme, walaykoum salam rahmatullah, et elle, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait en réalité, George Bush, c'est le meilleur allié de Ben Laden, en voulant dire que c'est grâce à des gens comme George Bush qu'il y a Ben Laden et que c'est lui, comme si pour dire c'est George Bush qui encourage Ben Laden ou des choses comme ça. Et en réalité, on peut dire le contraire. En réalité, c'est-à-dire que c'est George Bush qui est le meilleur ami de Ben Laden en réalité. C'est-à-dire parce que Ben Laden est en train de rendre le meilleur service à George Bush, c'est-à-dire de faire des attentats ou de supporter ces choses-là, soit directement ou indirectement, et ça, c'est comme on a dit tout à l'heure, ça donne un prétexte aux koufars, non pas pour eux, parce que eux, ils veulent le faire de toute façon, c'est-à-dire ils veulent attaquer, les groupes ou les gens qui font des attentats terroristes, mais ça les encourage, disons, vis-à-vis leur population, ça justifie leurs actions vis-à-vis leur population à eux, pour dire, regardez, on a une excuse. On a une raison de faire ce qu'on fait, de bombarder les pays et tout ça, parce que il y a ces gens-là qui font ces actes-là. Et ça, il n'y a personne qui est d'accord. Même les musulmans, on est contre ce que Ben Laden fait. Et ce que les terroristes font au nom de l'islam. Donc, il n'y a personne qui va s'opposer à combattre le terrorisme. Tout le monde est contre. Mais eux, ils utilisent ça par la suite pour frapper du même coup l'islam et les musulmans. Donc le chef il dit de donner le bon conseil aux dirigeants, ça c'est la sincérité, ça veut dire que tu es vraiment allié, tu es vraiment et sincèrement allié à eux, tu es un bon allié pour eux, et de leur donner des bons conseils et de leur montrer de la sincérité dans le conseil que tu leur donnes. Il y a dans ça du bien pour la Ummah, dans sa religion et dans sa dunya. Et tu les aides, le fait que tu donnes le bon conseil aux dirigeants, eh bien, il y a dans ça de l'aide pour eux, dans l'établissement de la religion. Et il dit que tu les écoutes et que tu obéis à leur commandement, tant qu'ils n'ont pas ordonné de faire un péché. Et de croire que ce sont des des chefs ou des dirigeants qu'on doit suivre et qu'on doit obéir dans qu'est-ce qu'ils ordonnent. Parce que sinon, si tu ne leur donnes pas le bon conseil et tu ne respectes pas leurs commandements et leur ordre, il y a dans ça une forme de trahison, une forme d'opposition à leurs commandements, et la division et le désordre qui n'a pas de fin. Des fois on entend par exemple, ça c'est la culture générale qui est propagée parfois même dans certains pays musulmans, que ce soit yani, en Algérie ou ailleurs, et les parents qui ont grandi dans cette culture-là ou dans cette mentalité-là, ils la transmettent à leurs enfants, et tu entends parfois leurs enfants qui répètent ces paroles-là des fois sans même comprendre. Ils disent « Ah, les généraux, comment ça ?» La culture de critiquer les généraux et d'accuser et de blâmer et de mettre tout le blâme sur les généraux. « Ah, les généraux, c'est, si ça va mal dans notre pays, c'est à cause des généraux, et les généraux ils prennent tout et ils font ci, ils font ça. » Et ils réalisent pas que ça c'est contraire au manhaj des salaf salih, qu'on n'a pas le droit de transmettre et de propager ces choses-là contre les dirigeants, que ce soit des généraux, que ce soit des hommes d'armée qui ont fait un coup d'État, qui ont pris le pouvoir, ou bien qui ont fait une révolution, peu importe. S'ils sont au pouvoir, c'est eux qui sont les responsables, et c'est eux qu'on doit écouter, et c'est eux qu'on doit obéir, dans le bien. Et on doit leur donner le bon conseil, et non pas de propager parmi la population, et encore moins à nos enfants, la haine de ces gens-là, ou de mettre la haine dans leur cœur contre eux. Plutôt, il faut faire des du'as pour eux et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de les corriger et de les aider dans le bien, de les ramener au droit chemin. Ça, c'est la voie d'Ahl Sunnah. Ça, c'est la voie d'Ahl Sunnah wal Jama'a, et non pas la voie des gens qui appellent les gens à s'opposer à eux et à les détester et à faire la fitna. Donc, le chef, il dit, comme il dit, ça amène du chaos et ça amène du désordre qui ne finira jamais. Si tu rentres là-dedans, ça finit plus. Et donc, si on permettait à tout le monde, à tout le monde qui a une opinion dans sa tête, il veut que ce soit son opinion à lui qui soit respectée, écoutée et obéie. Donc il commence à juger les dirigeants et à les critiquer. Il dit, bon, par exemple, moi, si c'était moi qui étais au pouvoir, j'allais pas faire ça, j'allais faire telle chose. Et là, il critique les gens qui sont au pouvoir des décisions qu'ils prennent et des choses qu'ils font, parce qu'il veut que ce soit son opinion à lui qui soit respectée et écoutée. Et donc il veut faire une opposition, d'accord? Alors que lui, si lui il était au pouvoir et qu'il prenait lui aussi une décision, il y aurait d'autres personnes qui ne seraient pas d'accord avec lui et qui voudraient aussi s'opposer à sa position, parce que tout le monde pense qu'il a la bonne position, tout le monde s'imagine que sa position c'est la bonne, et quand c'est des questions d'ijtihad, que ça n'a pas rapport avec les fondements de l'islam et les fondements de la sunna, quand c'est des questions d'ijtihad, eh bien il y a possibilité que quelqu'un se trompe. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si le dirigeant et fait une ijtihad, et qu'il a une bonne position, une bonne réponse, il a deux récompenses. S'il se trompe, il a une au lieu de deux. Et le fait que, même si tu sais qu'il a tort, le dirigeant, dans sa position, tu vas pas t'opposer à sa position, ça va réunir, ça va unir les gens. Tandis que si tu fais de l'opposition, que tu commences à t'opposer, et à faire la fitna, ça divise les gens. Et c'est ça ce qui se passe maintenant. D'accord? Donc le chef, il dit, si tout le monde qui pense que lui, il a raison, il veut imposer son opinion et sa position, et yani, que c'est lui qui a la bonne opinion, puis que personne ne doit le remettre en question, et souvent il y a des gens comme ça, yani. Donc, ça amène à quoi? Ça amène au désordre, à la division. Et c'est pour ça que dans le Coran et dans la Sunna, il y a plusieurs textes, des versets et des hadiths qui ordonne d'obéir aux dirigeants et de leur donner le bon conseil. Et, de, hein, et que ça, c'est ça qui va faire en sorte que la religion va se tenir. Donc par exemple, toi t'as une opinion, le dirigeant lui, il a une position, toi t'as une autre opinion. Tu es convaincu que la décision du dirigeant, elle est pas correcte, c'est pas la bonne. D'accord? La meilleure chose à faire, c'est de lui faire le bon conseil. Parce que toi, qu'est-ce que tu veux? Ton intention, c'est quoi? C'est le bien. Et le bien que tu veux, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala que tu le veux. Ton intention, c'est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois avoir l'ikhlas, la sincérité envers Allah dans tes intentions et dans les actions que tu fais. Donc, si toi, réellement, ton intention, c'est de plaire à Allah et de faire le bien, hein, donc qu'est-ce que tu fais? Tu donnes le nasiha, tu donnes le bon conseil. Hein, tu vois ton dirigeant qui se trompe ou qui fait une erreur selon toi, tu essaies de lui faire transmettre cette opinion-là et de lui donner le bon conseil. S'il l'accepte et s'il l'écoute, et il est convaincu par les arguments que tu lui as présentés, alhamdulillah, c'est une ni'ma pour toi et une ni'ma pour lui. Toutefois, s'il n'accepte pas, et s'il n'est pas d'accord, tu as fait ton devoir. Ce qui était obligatoire pour toi, de donner le bon conseil, tu l'as fait. Et même s'il ne t'a pas écouté, Allah il va te récompenser, parce que tu as fait ce qui est obligatoire pour toi. Hein? Donc c'est ça l'important. Ad-din al-nasiha. Ad-din c'est le bon conseil. C'est pas l'opposition, là, donner l'impression aux gens que on a un pouvoir, on va se révolter ou quoi. Ça c'est le désordre et la division que ça amène. Et c'est pour ça le cheikh il mentionne par la suite des versets, il dit, le verset qu'on a lu tout à l'heure, « Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum » Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux dirigeants, et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, et ça c'est les dirigeants et les ulama comme on avait expliqué déjà. Et il mentionne un autre hadith, le même hadith qu'on a mentionné tout à l'heure qui est rapporté par Al-Bukhari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, قال النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'obéir et d'écouter et d'obéir, ça c'est obligatoire pour tout musulman, dans ce qu'il aime et dans ce qu'il n'aime pas, tant qu'on ne lui commande pas de faire un péché. Hein? Donc dans le bien, tu obéis. Si on te demande de faire un péché, tu n'écoutes pas, tu n'obéis pas. Après, le chef il mentionne un autre hadith, il dit, قال صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. Ça c'est rapporté par Muslim. C'est-à-dire celui qui retire sa main de l'obéissance, hein, c'est-à-dire il cesse d'obéir ou il refuse d'obéir, hein, il refuse l'autorité, celui qui est au pouvoir, il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala sans aucun argument, il n'aura aucun argument pour se défendre. Après il mentionne un autre hadith, ce hadith-là il est rapporté dans As-Sunnah par l'imam Ibn Abi Asim, قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي. C'est-à-dire, c'est les paroles du prophète صلى الله عليه وسلم dans lesquelles il dit écoutez et obéissez, même si celui qui est au-dessus de vous, qui vous dirige, est un esclave éthiopien. Ça veut dire que c'est pas la personnalité du dirigeant qui est importante. Même s'il n'a pas de pied, il n'a pas de bras, hein, il a le nez, les oreilles coupées, hein, même si à sa vue, hein, on n'a pas l'impression qu'on a, il a une personnalité qui impose le respect et l'obéissance, on est obligé de l'obéir. Peu importe qu'est-ce qu'il est, peu importe sa couleur, peu importe son apparence physique, hein, même s'il est bossu ou il est, peu importe ce qu'il a, on doit l'obéir et l'écouter. Et ça, ça nous montre que il y a parfois des gens, ils voient que leur dirigeant, ils considèrent que leur dirigeant ne mérite pas d'être au pouvoir. Parce que eux, ils se considèrent qu'ils sont meilleurs que ah, lui, il mérite pas d'être au pouvoir. Moi, je suis meilleur que lui. J'ai plus de diplômes, j'ai plus une meilleure éducation, je suis plus éloquent et ci et ça. Donc, lui, on doit l'enlever. Il doit plus être au pouvoir. Et donc, il veut essayer de renverser soi-disant son autorité. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non. Écoutez et obéissez, même si celui qui est au pouvoir sur vous c'est un esclave, hein, même s'il n'est pas quelqu'un de respectable, de noble, de riche ou de peu importe, même s'il est pauvre, même s'il n'est pas éduqué, vous devez l'obéir et l'écouter, hein, dans le bien. Et parce que si vous essayez de l'enlever du pouvoir, vous faites du désordre, vous allez amener beaucoup de fitna. Et il a mentionné non, on ne doit pas convoiter le pouvoir. Le pouvoir appartient à ceux qui détiennent le pouvoir. Et ce n'est pas à personne parmi les gens de convoiter, de prendre sa place. Même au contraire, souvent les gens d'Ahl Sunna, ils veulent s'éloigner du pouvoir le plus possible. Hein? Ben, si c'est possible que, dans le sens que ça, c'est possible de le faire sans que quelqu'un le prenne le pouvoir. Dans le sens que, en donnant au dirigeant le bon conseil, en lui faisant le da'wah, en lui montrant le bien, en lui donnant le bon exemple, en enseignant à la population et aux gens la bonne voie, c'est possible. Hein? Sans qu'on ait à convoiter, soi-disant, le pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est Allah qui le donne à qui il veut. Hein? Et il l'enlève à qui il veut. Hein? تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الله سبحانه وتعالى جوبيل لو ديبي دو سكو لو ديبي دو آية في سورة آل عمران أين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء دي او الله سي توا لو ماتر دو توت شوز يعني سي توا لو Malikul Mulk, c'est toi qui possèdes le domaine et tout ce qui existe. Tu le donnes à qui tu veux. Tu donnes le pouvoir à qui tu veux. Et tu l'enlèves de qui tu veux. Et tu élèves et tu donnes la puissance à qui tu veux. Et tu rabaisses qui tu veux. Biadikal Khair. Hein? C'est entre tes mains que tout le bien est. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un veut le pouvoir, ne lui donnez pas. C'est une des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si quelqu'un demande le pouvoir, ne lui donnez pas. Donc, il ne faut même pas vouloir demander le pouvoir. Et, non seulement ça, yani, c'est une responsabilité dont les sahaba avaient peur. Yani, ils s'en éloignaient. Ils cherchaient à ne pas l'avoir. Parce qu'ils savent que c'est grand, une grande responsabilité devant Allah au jugement dernier. C'est pas quelque chose que tu demandes, que tu cherches. C'est quelque chose au contraire, tu dois t'en enfuir. Tu dois t'en éloigner le plus possible. Hein? Donc, l'attitude des gens d'aujourd'hui avec la démocratie et tout ça, c'est tout à fait le contraire. Ils cherchent, c'est quelque chose de comme une fierté, une gloire d'être au pouvoir, comme si c'était quelque chose d'un prestige, quoi. Alors qu'en réalité, non. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris la réalité de l'islam. Cheikh, il dit, wa Ubadat ibn Samit, radiallahu anhu, قال رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعصرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. il mentionne les paroles du hadith qui est rapporté par Al-Bukhari selon Abdullah Ubadat ibn Samit radiyallahu anhu, qui dit qu'on a donné l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on allait l'écouter et l'obéir dans ce qu'on aime et dans ce qu'on n'aime pas, dans la facilité comme dans la difficulté, et même si ceux qui ont le pouvoir sur nous se donne la, des privilèges dans cette dunya, hein, par rapport à nous. Il se donne toutes les choses de la dunya, il ne nous donne rien de nos droits. Hein, et qu'on ne dispute pas le pouvoir à ceux qui le détiennent. Excepté si on voit un coffre qui est clair, au sujet duquel on a une évidence, une preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là. D'accord ? Après le cheikh il continue, il dit « أما حقوق الرعاة على رعيتهم فهي السمع والطاعة بامتثال ما أمروا به وترك ما نهوا عنه ما لم يكن في ذلك معصية لله ورسوله فإن كان في طاعة الولاة معصية لله ورسوله فلا سمع لهم ولا طاعة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Donc le chef il dit, en ce qui concerne les droits des dirigeants sur ceux qu'ils dirigent, c'est qu'ils écoutent et qu'ils obéissent, mettent en ordre, en application les ordres qu'on leur donne, et qu'ils abandonnent ce qu'on leur interdit de faire, tant que ce n'est pas un péché ou une désobéissance à Allah et à son messager. فَإِنْ كَانَ فِي طَاعَةِ الْغُلَاتِ Il dit, s'il y a dans l'obéissance aux dirigeants, une désobéissance à Allah et à son messager, alors dans ce cas-là, on n'a pas le droit d'écouter, ni de leur obéir dans cette désobéissance. Et il mentionne les paroles qui sont attribuées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapportées dans la musnad de l'imam Ahmad, qui dit, il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance du créateur. Okay? Après, il dit, « Wa fi sahihain, an Ali ibn Abi Talib qal » بعث النبي صلى الله عليه بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار فلما خرجوا وجد عليهم في نفسه شيئا فقال لهم أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني قالوا بلى قال فاجمعوا لي حطبا ثم دعا بنار فأضرمها فيه فأضرمها فيه ثم قال عزمت عليكم لتدخلنها فقال لهم شاب منهم إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا إنما الطاعة في المعروف. D'accord. Donc ça c'est un des hadiths ici. Le cheikh dit que c'est rapporté dans Al-Sahihain, dans Al-Bukhari et Muslim, selon Ali ibn Abi Talib. Il raconte l'histoire que le prophète صلى الله عليه وسلم avait envoyé un régiment des Sahaba. Et il avait mis à la tête de ce régiment un homme parmi les Ansar. Et quand ils sont partis, cet homme a eu quelque chose contre celui qui était à la tête de ce régiment-là, ou de cette troupe. Il a eu quelque chose contre les gens qui étaient avec lui. Et il leur a dit, n'est-ce pas que le messager d'Allah vous a ordonné de m'obéir? Ils ont dit oui. Alors, il a dit, rassemblez-moi du bois. Ok, alors ils ont rassemblé du bois et il a fait un feu. Après, il a dit, je vous ordonne de rentrer dans le feu. Alors, il y avait un jeune parmi eux, il a dit, nous on s'est enfui vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous sauver du feu, de l'enfer. Alors, prenez votre temps jusqu'à ce que j'aille demander au messager d'Allah à ce sujet-là. S'il nous ordonne de rentrer, on va rentrer. Ok. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils sont partis voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont dit au messager d'Allah qu'est-ce que l'homme a demandé aux gens de faire. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, si vous étiez entré dans ce feu, vous n'en seriez jamais sorti. Hein? l'obéissance n'est que dans le bien. Ça veut dire que si, peu importe qui est en autorité, il a le pouvoir sur toi, qu'il t'ordonne de faire quelque chose qui est péché, qui est haram, t'as pas le droit de l'obéir. Hein, t'as pas le droit de l'obéir. C'est l'obéissance seulement, c'est dans ce qui est halal. Dans ce qui est halal. Et dans ce qui est bien, non pas dans ce qui est haram. Donc le cheikh il dit, وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة من له الأمر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. Ça c'est rapporté par l'imam Muslim. Le chef il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'obéir celui qui détient le commandement, même si on te frappe le dos, même si on prend tes biens. Et il a dit, celui qui voit d'entre vous quelque chose qu'il déteste de son dirigeant, alors qu'il soit patient, qu'il soit endurant. Parce que celui qui se sépare du groupe, hein, de la jama'a, d'un pouce, ou bien d'une courte distance, et qu'il meurt, s'il meurt dans cet état, il meurt dans un état d'ignorance, hein, comme avant l'islam, dans le temps où les musulmans étaient, dans le temps où les gens étaient tous divisés dans l'ignorance, hein, chaque tribu se combattait avec l'autre, hein, sans raison. Donc ça c'est une situation d'ignorance. Donc le chef il dit, donc là il continue, il dit « من حقوق الرعاة على رعيتهم أن يناصحوهم ويرشدوهم وأن لا يجعلوا من خطئهم إذا أخطأوا سلما للقدح فيهم ونشر عيوبهم بين الناس فإن ذلك يوجب التنفير عنهم وكراهيتهم وكراهية ما يقومون به من أعمال وإن كانت حقا ويوجب عدم السمع والطاعة لهم. Donc le cheikh il dit que parmi les droits que le dirigeant a sur ceux qui les dirigent, c'est qu'il leur donne le bon conseil et qu'il les oriente vers le bien. Et il ne doit pas prendre les erreurs des dirigeants, il ne doit pas utiliser les erreurs que le dirigeant va faire comme, disons, un prétexte pour les attaquer et pour les critiquer. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hein, parce que souvent c'est ça ce qui arrive. Un dirigeant fait une erreur, ou il fait quelque chose de pas correct, et il y a certains parmi les gens qui utilisent cette erreur comme un prétexte pour commencer à le critiquer ouvertement, puis à appeler les gens à se rebeller contre lui ou à le détester. Le cheikh il dit, on doit pas donc répandre ou propager les défauts du dirigeant parmi les gens. N'importe quel d'entre nous, il n'aimerait pas qu'on propage et qu'on fasse la diffusion de ses erreurs ou de ses fautes. Hein? Alors que, en réalité, si quelqu'un faisait ça, ça n'aurait pas vraiment un grand impact sur le reste de la société, parce que l'un d'entre nous, on est quelqu'un d'ordinaire dans la société, on n'a pas un poids, une autorité, on n'a rien. Donc si c'est les gens qui propagent nos péchés, on n'aime pas ça, c'est sûr, mais ça n'aurait pas fait un aussi grand tort que lorsqu'on fait la propagation et la diffusion des péchés de ceux qui dirigent. Parce que lorsque tu propages les défauts et les fautes de ceux qui dirigent, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que les gens vont vouloir s'enfuir des dirigeants, et ils vont commencer à détester les dirigeants, ok, et donc ça c'est très mauvais, et les gens vont détester tout ce que les dirigeants font, même si c'est bien, hein, par la suite, une fois qu'ils ont entendu des défauts et des mauvaises choses sur leurs dirigeants, qu'est-ce qu'ils vont commencer à faire? Ils vont rejeter tout ce que les dirigeants font, même si des fois ils font des bonnes choses, ils vont pas l'accepter. Et même s'ils leur ordonnent d'obéir dans qu'est-ce qui est bien, ils vont pas vouloir l'obéir. Donc, ça c'est très mauvais. Et le chef il dit, وَإِنَّ مِنَ الْوَاجِبْ عَلَى كُلِّ نَافِحْ خُصُوصًا مِنْ مَنْ يَنْصَحْ وُلَاتِ الْأَمْرِ أن يستعمل الحكمة في نصيحته ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن رأى ممن ينصحه من ولاة الأمور قبولا للحق وإنقادا له فذاك، وإلا فليتثبت في الأمر وليتحقق من وقوع الخطأ منه وإصراره عليه، ثم ليرفعه إلى من فوقه إن كان في ذلك مصلحة وإزالة للظلم، كما كان السلف الصالح يشكون ولاتهم إلى من فوقهم إذا رأوهم قد سلكوا ما لا ينبغي أن يسلكوه، وهذا ما نراه واجبا على الرعية من حقوق رعاتهم وولاتهم. الشيخ يقول c'est obligatoire pour le musulman et pour toute personne qui donne la nasiha, et en particulier celui qui donne le bon conseil aux dirigeants, d'utiliser la sagesse dans le conseil qu'il donne et d'appeler au chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala avec sagesse et avec des bonnes exhortations. Et si tu vois que la personne que tu as, le dirigeant, que tu lui donnes le bon conseil, qu'il accepte la vérité et qu'il se soumet à la vérité, alors alhamdulillah, ça c'est le bien. Hein? Mais si tu vois le cheikh, il dit, puis tu dois vérifier et faire en sorte d'être certain de la question, parce que des fois il y a des gens qui disent, ah il a fait telle erreur, puis c'est même pas vrai. Donc vérifier, essayer de savoir est-ce que c'est vrai, puis ensuite, si tu vois qu'il persiste, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ramènes l'affaire à quelqu'un qui est plus haut que toi. Tu ramènes l'affaire à quelqu'un qui est plus haut que toi. Parce que des fois, toi, tu ne peux pas aller directement voir le dirigeant pour lui donner le bon conseil. Parce que justement, t'es n'importe qui, t'es personne. C'est-à-dire, t'es personne qui a réellement un impact ou une autorité, ou bien quelqu'un qui est respecté de la part du dirigeant. Donc, celui qui est le mieux placé pour donner le bon conseil au dirigeant, c'est celui qui est près du dirigeant, celui qui a accès à lui facilement. Que ce soit quelqu'un qui est proche de lui comme un de ses conseillers, ou bien quelqu'un qui est proche comme les ulama, ou bien quelqu'un qui est proche par exemple comme de la parenté, de la famille, quelqu'un qui est capable d'avoir une influence sur lui et qui est capable de lui donner le bon conseil. Donc, si toi t'es pas capable de lui faire comprendre de l'atteindre, c'est-à-dire d'aller vers lui puis de lui parler directement, ben tu essaies de passer par des intermédiaires qui vont lui faire connaître l'information ou le conseil que tu veux lui transmettre. Et donc, c'est ça ce que les salafs faisaient. Lorsqu'il y avait une injustice ou qu'il y avait un mal, ils passaient, ils se plaignaient à ceux qui étaient plus haut qu'eux, hein, parmi les sahaba, parmi ceux qui sont au-dessus d'eux. Parce que eux, ils savaient qu'ils ne peuvent pas aller directement aux dirigeants, ils demandaient à ceux qui sont au-dessus d'eux, eux, ils vont le transmettre à quelqu'un d'autre, peut-être, ou bien directement aux dirigeants, ainsi de suite, Yannick. Donc, ça fait partie des choses qui sont obligatoires parmi les droits que les dirigeants ont sur les gens qu'ils dirigent et sur le peuple. Ensuite, le chef, il mentionne d'autres paroles maintenant. Ça, c'est tiré d'une cassette, Fatawa al-Ulama fi al-Irtiyalat wa al-Tafjirat. Ça, c'est donc dans cette cassette, le Cheikh a dit, Nahnu wa lillahi alhamd fi khayrin baladuna wasi'a, biladuna wasi'a, wasi'atul atraf, wasi'atul aradi, falau qaddara Allahu an yakuna hunak ikhtilaf fi hadhihi al-Ummah, madha satakunu al-Hal, wallahu ma yastati'u al-Wahid an yamshi من بريدة إلى عنيزة كما هو الواقع فيما سبق، ولو أن الأمة هنا في البلاد اختلفت لكان الخلاف أعظم وأشد من ذي قبل، فلهذا أنا أرى أن كل تصرف يجب تفرق الناس والإخلال بالأمن أنه إساءة عظيمة إلى هذه البلاد وشعبها. الشيخ يكسبليك ici que يعني c'est-à-dire que il parle du fait que lorsque les gens sont unis, il y a de la sécurité. Il y a de la sécurité dans le pays et il y a un ordre dans la société, il y a une certaine sécurité. Mais lorsque les gens sont divisés, hein, et bien là, il n'y a plus de sécurité. peux même plus partir d'une ville à une autre sans crainte pour ta vie ou pour tes biens ou pour ton honneur. Donc ça, ça vient du fait que les gens ne sont pas unis et sont, ils appellent la division. C'est ça qui arrive quand les gens se mettent contre leurs dirigeants. Ça crée l'instabilité et ça crée l'insécurité et les problèmes. D'accord ? Donc c'est ça ce qu'il veut dire ici. Ensuite il dit « من حقوق الولاة على رعيتهم النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة بسلوك أقرب الطرق إلى توجيههم وإرشادهم وأن لا يتخذ من وأن لا يتخذ من خطئهم إذا أخطأوا وهم معرضون للخطأ كغيرهم من بني آدم ولكن لا يتخذ من ذلك ومن هذا الخطأ سلما للقدح فيهم ونشر عيوبهم بين الناس فإن هذا يوجب التنفير عنهم وكراهيتهم وكراهية ما يقومون به من أعمال إن كانت حقا وإن كانت حقا ويجب بالتالي التمرد عليهم وعدم السمع والطاعة لهم وفي ذلك تفكيك المجتمع وحدوث الفوضى والفساد. Cheikh il dit, parmi les droits que les dirigeants ont sur leur peuple, c'est qu'on leur donne le bon conseil et qu'on les oriente avec la sagesse et les bonnes exhortations. Et de prendre le meilleur chemin, le chemin le plus court pour arriver à leur donner le bon conseil et les orienter comme il faut. Et on ne doit pas prendre de leurs erreurs lorsqu'ils font des erreurs. On ne doit pas prendre ça comme un prétexte pour se permettre de les attaquer ou de les critiquer et de transmettre parmi les gens leurs fautes et leurs défauts, parce que ça, ça fait que les gens vont se détourner et s'enfuir d'eux et de leur obéissance, et ils vont commencer à les détester et détester ce qu'ils font même lorsqu'ils ont raison et lorsqu'ils font quelque chose de bien. Et donc ça va amener que les gens ne vont pas vouloir les écouter. Et ça va diviser la société et amener le chaos et le désordre et la désordre dans la société. Et le cheikh il dit وهم معرضون للخطا كغيرهم من بني آدم. Et ça c'est un point important en fait, c'est que ils ont tous tout le monde est sujet à faire des erreurs et eux également parce qu'ils font partie des êtres humains, hein. Et donc il y en a aucun être humain qui est exempt de faire des erreurs. D'accord. Donc il ne faut pas penser que le dirigeant qui nous dirige, il va être parfait. Regardez juste ici par exemple, juste pour donner un exemple par rapport aux kuffars, comment ils gèrent leur politique ici. Chaque fois qu'il y a un politicien qui se fait élire, le lendemain de son élection, on commence à le critiquer. Les oppositions commencent à le blâmer, le critiquer, lui trouver des fautes, ils vont même faire des caricatures de lui, pour que les gens se moquent de lui, pour que les gens parlent contre lui, pour que les gens le détestent. Hein. Et s'il prend une décision qui ne leur fait pas plaisir, ils appellent les gens à le détester. Et ça, ils pensent que c'est au nom de la liberté d'expression, puis au nom de la liberté de pensée et d'opinion. Hein. Et il y a même des musulmans qui essaient de suivre cette voie, la voie des kuffars, à ce sujet-là, et qui rejettent les hadiths et les versets du Coran qui interdisent de faire ces choses-là. Et ils pensent qu'en suivant les méthodes et les voies des kuffars dans ces sujets-là, ils pensent que c'est ça ce qui va régler nos problèmes dans les pays musulmans. Hein? Alors ces gens-là, ils ont complètement passé à côté du droit chemin, hein, en réalité. Ils ont mal compris les problèmes de notre umma et comment les régler selon le Coran et la Sunna. D'accord? Donc, la société dans laquelle on vit ici, dans ce pays-là, les gens ne sont pas unis, les gens sont divisés. Et le pire, c'est qu'ils sont tellement divisés qu'ils ne réalisent même pas qu'ils sont divisés. Yani. Et il n'y a rien qui les unit en réalité. Il n'y a rien qui unit les gens ici, excepté l'illusion. D'accord? Ça, c'est la réalité. Yani. Dans le passé, il y avait la religion qui les unissait. Tout le monde était réuni par leurs croyances. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien qui tient, il n'y a plus rien qui reste. Hein? Donc, nous, c'est ce qui nous réunit, c'est notre foi en Allah subhanahu wa ta'ala, la foi en Coran, la foi en la Sunna, c'est ça ce qui fait qu'on est réunis, c'est ce qui fait qu'on est des frères, c'est ce qui fait qu'on est, peu importe d'où on vient sur la terre, on a un lien l'un avec l'autre. Et c'est ça ce qui nous donne notre force. Et eux, ils n'ont plus ça, ils n'ont plus rien. Ils n'ont même avant, même quand ils étaient, disons, religieux ou qu'ils avaient une religion, ben, elle était basée sur le mensonge, sur la fausseté, sur l'égarement, hein, la Trinité, les idoles, les saints, les prêtres qui abusaient de leur pouvoir, hein, qui volaient la population, qui prenaient des privilèges pour profiter de la religion pour oppresser ou pour opprimer les gens. Hein. Alors, on voit que l'islam nous a sauvés de tous ces problèmes-là et de ces désordres-là, et nous a amenés vers ce qui est bien. Toutefois, nous, parfois parmi les musulmans, il y en a qui sont, disons, ils ne sont pas conscients de la grandeur de la religion qu'ils ont et du bien qu'il y a dans cette religion, et ils sont séduits par ce qui est entre les mains des autres, et ils pensent que c'est avec ce que ces gens-là ont qu'ils vont être capables de régler nos problèmes. Et non, hélas. La solution à nos problèmes ne peut venir que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc ça c'est quelque chose d'important à comprendre. Puis je pense qu'on va s'arrêter ici, parce que déjà ça fait 1h30, puis on continuera ça la semaine prochaine, bi'idhnillah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.